19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nouvelle semaine. On est lundi et tranquillement, ce que je vous propose durant une heure, justement dans les informés sur Beurre FM, c'est d'être ensemble justement pour commenter, analyser et décrypter l'actualité, vous le savez. Alors au menu, ce qui vous attend, d'abord notre invité François Fenech qui sera avec nous tout à l'heure. L'un des responsables de XTB qui viendra nous expliquer évidemment les enjeux du pouvoir d'achat, mais également l'inflation. Évidemment, on est torté encore plus avec cette guerre en Ukraine aujourd'hui, d'être confronté à la situation de payer plus. Évidemment, alimentation, pouvoir d'achat, c'est dans une poignée de minutes. Ensuite, tout à l'heure, on commentera trois sujets d'actualité. Les présidentielles 2012, les 12 candidats qui participeront à cette élection. Ça y est, on connaît d'ores et déjà les visages et puis surtout ce qui nous attend. On en parle tout à l'heure, ce sera commenté par les débatteurs influenceurs. Également, autre sujet commenté ici même dans les informés, Marion Maréchal qui officialise ralliement à Éric Zemmour. Nous parlerons, est-ce que cela évidemment va changer quelque chose, ça va changer la donne. Et enfin, nous reviendrons avec la guerre en Ukraine, plus d'1,7 million de réfugiés ukrainiens. Ça, c'est le dernier bilan de l'ONU. On parlera aussi finalement comment les choses vont se jouer, vont se dessiner dans les prochains jours. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Et tout de suite, nous accueillons, vous savez, l'un des responsables de... Il s'occupe des marchés, il s'occupe aussi notamment de parler de pouvoir d'achat. Il est avec nous, il s'appelle François Fenech, l'invité du jour.
Les informer, l'interview.
François Fenech, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce soir, justement, dans les informés, pour parler avec pouvoir plaisir. D'achat, avec plaisir partagé. Dites-moi, mon cher François Fenech, vous êtes... Alors, XTB, est-ce qu'on peut juste planter le décor, précisément, la fonction de XTB?
Bien sûr, XTB, c'est un courtier en ligne actions et dérivés qui existe depuis 20 ans. C'est un courtier qui est installé en Europe et en France depuis 10 ans maintenant. On a nos bureaux à Paris et on propose de l'investissement. On est expert sur les marchés financiers.
Alors François Fenech, je ne vous l'apprends pas. Justement, c'est pour ça que je tenais à en parler, parce que c'est aussi une préoccupation des Français, plus que jamais, durant cette campagne présidentielle. Le pouvoir d'achat, l'alimentation, notamment en priorité, qui s'impose désormais, vous le savez, comme une des préoccupations majeures des électeurs dans cette campagne. Et puis encore plus, François Fenech, la guerre en Ukraine, qui impacte désormais, ça y est, on le sait, déjà notre économie. Peut-on s'inquiéter dans les prochains jours à court terme, François Fenech?
Oui, tout à fait. Dans les prochains jours et même dans les prochaines semaines, les Français constatent une hausse des prix depuis le second semestre 2021. C'est un phénomène qui a atteint un pic au niveau des prix, notamment de l'énergie, mais surtout des produits à la consommation et des biens manufacturés en novembre dernier.
Oui.
Normalement, la bulle était censée éclater, ou au moins les prix étaient censés se stabiliser. En tout cas, c'était les projections de la plupart des institutions internationales. Seulement, la crise en Ukraine est venue relancer ce problème d'inflation dans la mesure où ça pose tout un tas de problèmes d'approvisionnement d'énergie notamment, mais également de produits agricoles, de céréales notamment.
Alors justement, on va aller parler de ce qui préoccupe, vous l'avez dit, le pouvoir d'achat et l'alimentation. Alors, est-ce que ça veut dire aujourd'hui, concrètement, François Fenech, vous le disiez dans les prochaines semaines, est-ce que concrètement, avec la guerre en Ukraine, hein, on parle du blé, on parle du gaz, on parle de l'essence, est-ce que les Français aujourd'hui sont vraiment disposés à payer plus cher?
Ils n'auront pas le choix, malheureusement pour eux. La guerre en Ukraine est déclarée, le pays est envahi, plusieurs infrastructures de transport, et notamment au niveau du port d'Odessa, sont bloquées ou en tout cas font face à des bombardements. Ça va de toute façon poser de gros problèmes d'approvisionnement et d'exportation, à la fois d'énergie mais aussi de matières premières agricoles. Et ça aura inévitablement une répercussion sur les prix à la consommation des Français. On l'a vu déjà, hein, avec 3,6% d'augmentation des prix au mois de mars, alors qu'on était à 2,9% en janvier.
Est-ce que le pouvoir d'achat aujourd'hui est vraiment au cœur des préoccupations? Dites-moi.
Alors, moi je peux parler qu'à ma petite échelle, bien sûr, mais en prenant en compte l'augmentation du pouvoir d'achat qui se situe uniquement à 1,9% sur 2021, quand on voit que le prix de l'énergie a bondi de plus de 20% sur un an, rien que pour parler du pétrole, on a dépassé les 130 dollars le baril. Pour le maïs, pour le blé, pour le nickel, pour l'aluminium, c'est la même chose. Il faut bien se dire que ça aura, et que ça a déjà eu de toute façon, une répercussion au niveau de la vie des entreprises.
Oui.
Les entreprises vont toutes produire, et produisent déjà toutes, beaucoup plus cher. Et évidemment, ce coût de production...
Quand vous parlez de répercussions, François Fenech, est-ce que vous parlez du porte-monnaie des Français?
Oui.
C'est quoi ces répercussions? C'est des répercussions directes sur le porte-monnaie?
Alors non, indirect, puisque les premiers acteurs impactés aujourd'hui par ces problèmes, ce sont les entreprises. Pour ne prendre que pour exemple les producteurs agricoles, les prix agricoles à la production ont déjà bondi de quasiment 16% sur un an. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore du tout au bout de la répercussion du prix à la hausse sur le consommateur final. On est encore dans une phase transitoire.
Alors, vous avez parlé évidemment de la hausse des prix, de beaucoup de choses qui nous concernent au quotidien. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur le carburant aujourd'hui. On parle beaucoup d'essence, on parle beaucoup de gaz, on parle du prix du pain aujourd'hui. Ma question est très simple, François Fenech. Comment le pouvoir d'achat, avec cette guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat des Français, bien sûr, va être impacté?
Il va être impacté par une poursuite de la hausse des prix de l'énergie, que ce soit du gaz, de l'électricité, de l'essence, on l'a déjà vu. On a dépassé 1,80€ le litre d'essence, mais rien ne dit que c'est terminé. Tous les produits manufacturés également, les biens qu'on achète dans l'industrie produit des biens manufacturés, mais produit beaucoup plus cher. Donc tout ce que l'on va pouvoir acheter en tant que Français, en tant que consommateur individuel, il va falloir s'attendre à ce que la facture augmente dans les prochaines semaines si le conflit se poursuit.
Alors évidemment, si je vous écoute parler, ça veut dire qu'on va être affronté à un nouveau choc majeur.
Alors pour l'instant, non, on ne peut pas parler de choc majeur puisque la répercussion reste modérée sur les prix à la consommation. Pour l'instant, c'est encore gérable. C'est simplement au-dessus des prévisions des experts et des analystes.
On parle, François Fenech, tous les spécialistes, les économistes parlent de plus en plus d'une crise économique. Cette crise économique, est-ce qu'on est en plein dedans ou c'est une crise économique à venir, François Fenech?
Ni l'un ni l'autre. On ne peut pas parler de crise économique. On n'y est pas encore du tout. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu la crise du Covid et il y a eu un très beau rattrapage en termes de croissance, notamment une croissance qui s'est traduite par une augmentation des prix, mais c'est tout à fait naturel, normal et prévisible. On a une augmentation des prix qui est galopante depuis le second semestre 2021. Pour autant, elle reste modérée par rapport aux projections, donc tolérable d'un point de vue économique. Elle n'est pas encore à même de provoquer une crise, pas du tout.
Alors finalement, je sais que vous, évidemment, vous ne représentez pas l'État ni le gouvernement, mais est-ce qu'il y a des solutions qui vont être proposées des deux côtés, à la fois des entreprises, à la fois des gouvernements concernés, pour des mesures immédiates, justement, pour amortir peut-être un peu l'impact de cette hausse que vous venez de nous esquisser, François Fenech?
Alors, malheureusement, les alternatives, elles sont très limitées en termes de choix. Je pense notamment aux entreprises qui pourraient, ou à l'État français qui pourraient s'approvisionner en gaz ou en pétrole par d'autres pays, mais ce sont des mesures qui seront extrêmement longues et compliquées à mettre en place et qui ne pourront pas avoir d'effet immédiat. Ce sont des mesures qui prendront des mois à se mettre en place. Aller s'approvisionner en gaz ou en pétrole ailleurs qu'en Russie, bon, en maïs et en blé, on est moins impacté parce que heureusement, grâce à l'Union européenne, on a quand même de gros producteurs locaux. Mais les mesures, non, elles sont malheureusement très réduites en termes de choix.
Alors dites-moi, dans ce cas-là, si elles sont réduites, qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui sont inquiets aujourd'hui parmi nos auditeurs, partout en France, qui se posent des questions, elles sont légitimes ces questions, et qui se disent finalement, comment doit-on s'organiser? Certains, je les entends dire, peut-être qu'il va falloir prévoir quelques stocks de blé, quelques stocks de farine, quelques stocks peut-être d'approvisionnement, au cas où, effectivement, l'embrasement se presse du côté de chez nous. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, tous celles et ceux qui se posent ces questions-là?
Alors, les entreprises, effectivement, elles peuvent penser à se constituer des stocks pour leur production si elles prévoient, elles anticipent une augmentation de leurs coûts au niveau des fournisseurs. Mais pour le consommateur final, à part limiter ses déplacements au strict minimum pour éviter d'avoir à utiliser du pétrole et donc de l'essence, ou à part reporter certains de leurs projets, malheureusement, je ne vois pas d'alternative. C'est forcément eux qui paieront la note.
Est-ce que vous-même, vous êtes inquiet dans les jours à venir, dans les semaines à venir, François Fenech, quand on parle de cette guerre en Ukraine? Évidemment, je pense économie. Hein.
D'un point de vue économique, bien sûr, on est inquiet, puisque il y a déjà des signes d'alerte très inquiétants au niveau des marchés, des investisseurs qui ne paniquent pas, mais qui en tout cas sont très craintifs. Si le conflit venait à s'amplifier et à s'aggraver, il y aurait des conséquences désastreuses sur les marchés financiers, sur les entreprises et donc sur l'économie réelle et dans notre vie de tous les jours. On n'y est pas encore du tout, mais tous les scénarios sont possibles. Le désamorcement de la crise comme le fait de pouvoir atteindre des proportions inimaginables en termes humains, en termes matériels.
Oui.
Donc si on se place dans le scénario le plus cauchemardesque, oui, il y a de quoi être inquiet dans notre vie de tous les jours.
Bon,
on n'en est pas encore là.
On n'en est pas encore là.
On n'en est pas là du tout.
François Fenech, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, ce soir, dans Les Informés, pour cet éclairage, cette analyse. Vous êtes un des responsables donc de XTB. Merci François Fenech, à très bientôt.
À bientôt, merci.
Merci à vous, 19h12. Nous allons tout de suite, sans tarder, accueillir les débatteurs influenceurs, justement pour les trois sujets qui nous concernent. C'est parti, le face-à-face.
Les Informés. Le face-à-face.
Et je dirais aussi le standard est ouvert, jingle.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Je dis ça parce que je voudrais vous entendre, effectivement, comme vient de le dire le spécialiste François Fenech. Est-ce que vous êtes inquiet quand on parle de cette guerre? Est-ce que économiquement, vous êtes inquiet, évidemment, parce que le gaz augmente, parce que l'essence? Comment vous vous organisez dans votre quotidien? Messieurs, d'abord vous, je vous pose la question. Ça vous inquiète? Farid Tamsamali, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir
Adil. Quel retour, ça fait longtemps.
Ben, merci de l'invitation, Adil.
Tout va bien?
Ça va, très bien.
Consultant, justement. Face à lui, Philippe Nadji-Bourriaki, bonsoir.
Bonsoir.
Qui a fait parler de lui tout le week-end? Mais vous êtes marrant, vous êtes quand même... Vous êtes fort, hein?
Je sais pas ce que tu parles.
Ben, on vous a vu partout, sur les télés, vous étiez derrière, on a commenté, tout le monde a commenté.
Ah, je me suis retrouvé...
Est-ce que c'est le retour dans Europe Écologie Les Verts ou pas?
Pas encore, mais pour votre information, j'ai été exclu de manière assez injuste. J'ai saisi le bureau du Conseil fédéral avec mes avocats pour expliquer que c'est pas vraiment juste. S'il n'y a pas gain de cause, on ira devant le juge des référés. Donc c'est juste une question d'honneur, hein, vous inquiétez pas, on fera juste un tour, après on partira. J'ai porté plainte parce qu'on a démasqué des gens qui ont menti à une commission, qui n'a pas fait de débat contradictoire et son travail. Mais ça, c'est quand on veut écarter un concurrent, c'est normal. Et puis je me suis retrouvé effectivement sur la tribune officielle avec tout le gratin dauphinois,
bah, pour
place de la Bastille.
Avec Anne Hidalgo, Yannick Jadot,
j'allais faire une
Colette Jadot, BHL.
Mais je laisse Philippe terminer.
Ouais, ah bon, c'est quoi la dictate?
Bah, alors du coup, le Ku Klux Klan.
Oui. Ouais, bah... À la décharge de Sandrine Rousseau, après elle s'est rattrapée comme d'habitude, elle balance un truc, elle a fait un rétropédalage. Elle n'a pas entièrement tort quand même, quand tu vois la cartographie des élus à Europe Écologie des Verts, parmi quelques exceptions, et je suis très content de Mounir Satouri, de Karim Adeli, quand tu regardes au bureau exécutif national, au bureau exécutif régional dans toutes les régions, bah disons, c'est pas très coloré, mais c'est aussi de notre faute. Faut arrêter de toujours jeter de la pierre sur les autres.
Enfin, la comparaison est quand même un peu violente.
Bah, écoute,
quand on sait ce que c'est le Ku Klux Klan.
Oui.
Il a raison, Farid. Hein.
Elle pourtant, est un peu violente quand même. Tu me connais.
Elle est violente. Elle est violente, mais aujourd'hui, la zéborisation des esprits, la lupinisation des esprits. Pourtant, c'est pas ma copine, Sandrine Rousseau. Vous avez bien vu qu'on n'était pas du tout sur la même ligne. Et si elle gagne le parti, quand je serai réintégré, je ne resterai pas. C'est pas possible. Tu vois, moi, je suis un écolo pragmatique et pas un écolo sectaire. Je dis pas qu'elle est sectaire, mais en tout cas, elle est ultra radicale et c'est pas mon truc.
Messieurs, justement, donc, le pouvoir d'achat, le spécialiste était avec nous. Carburant, alimentation, essence, enfin la totale, gaz, la vie des Français de plus en plus chère. Vous dites quoi, vous, Farid Demsamani?
Que...
On peut s'inquiéter ou pas? Est-ce que vraiment la question se pose aujourd'hui plus que jamais d'ailleurs durant la campagne présidentielle.
Il faut s'inquiéter. Je rappelle juste que l'augmentation des prix de l'énergie, notamment du carburant, elle date d'avant la crise ukrainienne quand même. Il faut quand même rappeler les choses, qu'elles avaient largement commencé, que c'était la musique par laquelle en fait ont été créés à l'époque les Gilets jaunes il y a quelques années. Il faut quand même le dire.
Il faut le rappeler.
Voilà, que le pouvoir a malheureusement a quand même plutôt martyrisé, justement, c'est pour ça qu'on les entend très peu aujourd'hui. Et il y a cette crise ukrainienne qui clairement nous impacte directement. Et moi, je suis très inquiet. J'ai écouté notre spécialiste juste avant. Je ne partage pas complètement son analyse. Aujourd'hui, on sait que le gaz explose en termes de prix. Pourquoi ? Parce qu'une partie des partenaires économiques de la France achètent du gaz à la Russie. On pense notamment à la.
Vous avez ce qu'il a dit, le président d'Engie. Hein. Il a dit que cet été, ça peut poser problème. Hein. Ils seront en galère de gaz. Hein.
Non, mais non seulement cet été, mais en plus de ça, ça a un impact sur l'économie mondiale. Parce que dès lors que vous avez une crise, et notamment militaire comme celle-ci, ça a un impact sur la confiance des gens, donc de la consommation, donc du coup, du renchérissement d'un certain nombre de produits. On a parlé notamment du blé. La France est productrice de blé, mais vous avez des pays, moi je connais quelques pays, notamment sur le continent africain, qui n'ont pas beaucoup de jours, si ce n'est de semaines devant eux, de blé. Donc du coup, ça va avoir un impact très 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 inquiétant.
On continue d'en parler, on va marquer juste la première pause pub. Justement, je vous attends au 01 53 48 3000. Et vous, comment vous organisez évidemment dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a une réorganisation de votre vie? Je vous attends, à tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, 19h-23, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Et vous êtes au standard 01 53 48 3000, messieurs. Tiens, on n'a pas entendu Philippe Nadji Bouriaki concernant le pouvoir d'achat, l'alimentation et puis la vie des Français qui est de plus en plus chère. Ça y est, on y est, hein, on en plein dedans, ça va être compliqué. Hein. Compliqué.
Le mazout, il est à 2 euros. C'est un truc de fou. Et c'était prévisible. Et c'est pour ça que la situation, elle va évoluer, je pense, rapidement. Parce que il n'y a aucun dirigeant qui veut que son peuple se soulève contre lui. Et donc, les gens, quand ils ont faim, ils font des choses qui sont irrationnelles. Mais ce qui me désole, c'est qu'après chaque conflit, une fois qu'il y a la résolution, les prix ne redescendent pas. Le baril, il n'est pas à son plus haut. Rappelez-vous, en 2008, il était à 140 euros.
Et... Philippe, si je peux me permettre une chose, c'est que le prix de l'essence, là, en ce moment, il n'est pas corrélé au prix du baril.
Bien
parce
sûr.
Que le baril, on l'achète à terme. C'est-à-dire que c'est 3, 6, 1 an. 3, 6 mois, 1 an. Donc, du coup, c'est sûr qu'il va encore augmenter. C'est pour ça qu'il faut que ça s'arrête rapidement. Parce que tu disais à juste titre plus de 2 euros, mais quand on va vraiment payer la répercussion des 130 ou 140 dollars le baril, ça va faire cher.
Là, ça va être un autre décor.
En 2008, il était à 130 et il était à 1,60, 1,70 grand max.
Allez, messieurs.
Là, il est à 114.
Exactement. J'entendrai les auditeurs tout à l'heure au 01 53 48 3000. Messieurs, le premier sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui, de ce jour, justement, c'est les présidentielles. Ça y est, on connaît d'ores et déjà les 12 candidats qui participeront à cette élection présidentielle. Je vais les citer rapidement. Nathalie Arthaud, pour Lutte Ouvrière, Nicolas Dupont-Aignan, DLF, Anne Hidalgo, le PS, Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, Jean Lassalle, Résistons, Marine Le Pen, Rassemblement National, Emmanuel Macron, La République En Marche, Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, Valérie Pécresse pour Les Républicains, Philippe Poutou, Nouveau Parti Anticapitaliste, Fabien Roussel, Les Communistes, Éric Zemmour, Reconquête. Messieurs, que peut-on dire de ces 12 candidats? N'est-ce pas beaucoup? Et puis surtout, la question que je vous pose, ils sont en lice désormais sur la ligne de départ. Alors qu'on est en pleine guerre, finalement, est-ce qu'il y a vraiment campagne, Farid Temsamani? C'est la question que beaucoup de gens se posent. 12 candidats, et puis
non,
aucune campagne.
Il ne peut pas y avoir de campagne sérieuse, malheureusement, lorsque vous avez un conflit sur le continent européen, tout proche de la France. La réalité, malheureusement, elle est celle-ci. On le voit d'ailleurs, l'entrée en campagne du président sortant, elle s'est faite très tardivement, quasiment à la dernière minute, par le Conseil constitutionnel. Donc en fait, la campagne va être éclair. Elle me rappelle moi la campagne, même si j'étais gamin, elle rappelle la campagne de Mitterrand en 88. En réalité, Et d'ailleurs, même ses adversaires, en réalité, ils sont déjà dans une posture potentielle de façon, il faut qu'elle passe rapidement, qu'on prépare la prochaine, tout simplement. Je je suis un peu étonné parce qu'il y a Philippe Poutou, apparemment, il a ses signatures.
Ah, in extremis. Hein.
Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Et moi, je voulais un petit bémol quand même sur parce qu'on nous a beaucoup bassiné avec la primaire populaire. Et notamment Taubira, qui finalement n'est pas qualifié. Et moi, je voulais, même si c'est pas mon bord politique, c'est un scandale cette primaire populaire. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui ont voté, vous avez des gens qui ont été sincères et qui étaient citoyens, qui se sont exprimés à travers la primaire populaire. Vous avez quelqu'un qui est arrivé en tête, si je dis pas de bêtises, qui était Taubira, qui malheureusement n'est pas qualifié par incompétence et par autre chose pour l'élection présidentielle. Et au lieu
parrainage.
Exactement. Les parrainages, en fait, il y a 42 000 parrainages potentiels en France. On a largement le temps, quand on est structuré, quand on veut vraiment y aller, de les récupérer. La preuve, Nathalie Arthaud, par exemple, si je prends quelqu'un que personne ne connaît objectivement, qui est enseignante en Seine-Saint-Denis, mais qui en vérité, c'est un parti, elle les a malgré tout, tu vois. Donc du coup. Jean Lassalle, objectivement, avec tout le respect que je peux avoir pour lui.
Ouais, mais il laboure le terrain, Jean.
Je suis d'accord avec toi. Mais pour revenir à la primaire populaire, le scandale, c'est que vous avez eu un classement dans cette primaire populaire. Alors je passe la méthode, mais la réalité, c'est que au lieu de prendre celui qui est juste après Taubira.
Je sens le coup de gueule de Farid Temsamani.
Mais en fait, c'est tout ça qui fait que les gens sont dégoûtés de la politique. On fait croire à ces gens, à ces citoyens qui ont participé à cette primaire populaire, que en fait on fait de la politique différemment, etc. Et en vérité, on se fout de leur gueule parce que on n'a pas choisi celui qui arrive juste derrière Taubira. Et pourtant, c'est pas ma famille politique, enfin c'est pas ma couleur, en tout cas, idéologique. On va choisir quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve ça scandaleux.
Scandaleux. Je viens vous entendre votre opinion, Philippe Nadji-Bouriaki. Je veux juste accueillir, si vous voulez bien, si vous me le permettez, Lagdard qui nous appelle de Bourges. Bonsoir, Lagdard.
Bonjour FM.
Bienvenue, nous vous écoutons, cher Lagdard.
De ce qu'il vient de dire, c'est Farid, de ce qu'il vient de terminer, Farid.
Absolument,
là.
Farid.
Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a la parole, et ça, c'est quelqu'un qui a raison, quand il dit que la politique se fout de notre gueule, ils en ont rien à foutre de nous, ils se servent de nous.
Il a dit que Farid Temsamani a utilisé le mot dégoûté.
Comme il vient de prononcer, je suis absolument d'accord pour lui. Moi, maintenant, Beurre FM, ce que je voudrais vous dire au niveau du vote, donc, vous, en tant que journaliste Beurre FM, est-ce que vous avez encore en mémoire le nombre de personnes qui ont été non vaccinées?
Oui, ben on les a, oui, les chiffres, on les connaît.
C'est 6 millions.
Entre 4 et 6, oui.
Entre 4 et 6 personnes qui n'ont pas été vaccinées. Parce que moi, je peux vous dire que j'en fais partie du tas. Moi, je n'ai pas été vacciné. Donc, pourquoi je dis ça? C'est par rapport que Macron, il ne faut pas qu'il oublie de ce qu'il a dit, que tous ceux qui ne sont pas vaccinés, qu'il va les emmerder. Parce que le nombre de personnes qui n'ont pas été vaccinées, ça fait quand même mal. Parce que moi, si je me mets à sa place... le nombre de personnes qui n'ont pas été vaccinées, ça fait mal pour ces gens-là, j'espère, comme moi, mais qui ne voteront pas aussi, et que moi, je vais emmerder aussi, et que je ne voterai pas.
Bon, au moins, ça a la clarté d'être évidemment très clair, votre
Lagdard. Il faut l'emmerder en allant votant pour quelqu'un d'autre.
Ouais. Attendez, accomplissez votre devoir civique, mon cher Lagdard.
Quand il dit que je vais emmerder. Moi, j'ai jamais entendu ça d'un président, non, jamais de ma vie.
On a compris, Lagdar, mais dans ces cas-là, c'est que vous acceptez de vous faire emmerder sans pouvoir vous défendre. Et là, vous pouvez vous défendre le 10 avril prochain.
Exactement. On vient d'entendre le nombre de personnes qui n'est pas vaccinées. Vous vous rendez compte pour un président qui dit ça et qui veut se faire réélire.
Ouais, mais il a raison puisque vous dites que vous n'allez pas voter. Donc il a raison de pouvoir le dire. Dans ces cas-là, vous lui donnez raison.
Non, mais c'est lui qui a dit. C'est lui.
Je sais, Lagdar. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous nous avez dit que vous n'allez pas voter. Et donc par conséquent, en n'allant pas voter, il a eu raison de dire ça puisque vous allez même pas le sanctionner. Allez voter, Lagdar. Allez voter.
C'est Philippe Nadji-Bouriaki qui vous parle. Hein, donc, effectivement, oui. Je le rejoins. Il faut aller accomplir votre devoir civique.
Je vais absolument pas vous dire pour qui vous allez voter.
Lagdard, merci en tout cas pour votre témoignage et votre opinion du côté de Bourges. Merci, Lagdard.
Merci.
Merci, 19h31, avec une minute de retard tout de suite, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, vous le savez, c'est comme chaque lundi, c'est avec Maître Philippe Henri Honegger chez Ruben et Associés. Bonsoir, Maître.
Bonsoir, Adil.
Le billet d'humeur de ce soir, votre édito, est consacré à « Peut-on juger Poutine ?» À vous la parole, comme disait l'autre.
Bah oui, oui, ça va pas très bien en ce moment, je vous le cache pas, parce que je suis inquiet. Inquiet bah, par ce qui se passe en Ukraine, et parce qu'on a un potentiel criminel à la tête d'un pays qui possède un arsenal nucléaire capable de détruire la planète en quelques secondes. Je suis un peu inquiet. Et je me demandais, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que ça serait bien si, vous savez, comme dans les films américains, si on avait un héros qui pouvait s'infiltrer comme ça au Kremlin, assommer 2-3 gardes et zigouiller le gros méchant pour sauver le monde. Malheureusement, bah, on n'a pas ça. Et dans le vrai monde, on n'a pas de James Bond, on a un autre Britannique qui s'appelle Karim Khan. C'est le procureur de la Cour pénale internationale qui a annoncé la semaine dernière qu'il lançait une procédure concernant la guerre en Ukraine, pour identifier d'éventuels crimes de guerre qui auraient été commis. Je ne sais pas si vous souvenez quand je vous avais expliqué la semaine dernière qu'on avait l'Assemblée générale des Nations Unies avait pris une résolution qui en fait servait à rien, juste à dire ah bah la guerre c'est mal mais on pouvait rien en faire.
Oui.
Puis qu'on avait le Conseil de sécurité qui lui aurait pu envoyer l'armée, mais qu'en réalité, comme il fallait le faire sans un veto de la Russie et que la Russie avait le veto, il pourrait rien faire. Et puis aujourd'hui on a eu la Cour de justice internationale, je vous en avais parlé aussi, qui en fait ne s'intéresse qu'aux questions financière. Aujourd'hui, il y a eu les premières plaidoiries, mais il faut des années avant d'avoir des décisions qui servent à rien.
Oui.
Donc, on a la CPI, la Cour pénale internationale. Vous savez, c'est un petit peu une manière réorganisée, institutionnalisée de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale durant le procès de Nuremberg. En gros, on identifie s'il y a eu des crimes de guerre, c'est-à-dire des atrocités qui ont été commises pendant la guerre, on identifie les responsables et on les condamne. Et le principe du droit, et c'est pour ça qu'on a créé la Cour pénale internationale, et qu'on n'avait pas trop respecté au moment de Nuremberg, c'est que normalement, on n'a pas le droit de punir quelqu'un si l'infraction pour laquelle on va le punir n'existait pas au moment où ça a été commis, et ni sur le territoire où ça a été commis. Pour donner un exemple simple, si la semaine prochaine vous allez fumer du cannabis à Amsterdam, bah, revenu en France, on pourra pas vous dire ah bah attendez, vous avez fumé du cannabis à Amsterdam alors que c'est interdit en France. Bah non, parce que c'est autorisé aux Pays-Bas et interdit en France. En fait, sur le territoire où ça se passe, on fait un peu ce qu'on veut. Et c'est la même chose avec la Cour pénale internationale, c'est-à-dire qu'on a ouvert la possibilité aux pays de signer cette convention en disant moi je veux être protégé par cette convention pour que si jamais il y a des crimes de guerre sur mon territoire, bah, je puisse être protégé. Cette convention, elle a été signée par la France, elle a été signée par tout un tas de pays, elle n'a jamais été signée par exemple par les États-Unis, mais elle avait été signée par la Russie, qui avait très envie de pouvoir participer à ça, jusqu'à la guerre en Crimée, où elle a décidé en 2014 de sortir de la Cour pénale internationale en se disant « Oh là là, moi je veux plus du tout qu'on me juge pour d'éventuels crimes de guerre », parce qu'elle n'était pas très bien. L'Ukraine, elle, n'avait jamais ratifié, mais en 2014, après la guerre en Crimée, elle a dit « Ah non, mais finalement, moi, je veux bien accepter la compétence de la Cour pénale internationale », mais elle a jamais véritablement ratifié le traité. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une situation compliquée.
Oui.
L'Ukraine, territoire sur lequel, s'il y a des crimes de guerre qui sont commis, on pourrait poursuivre les personnes, mais la Russie, qui n'a pas ratifié, donc qui ne va pas appliquer la Cour pénale internationale et les différents mandats internationaux, et donc s'il y a un criminel de guerre en Russie, il ne pourra pas être poursuivi, en tout cas, il ne sera jamais renvoyé à la haie pour être jugé. Et voilà la situation dans laquelle on est, avec un Karim Khan, procureur international de la Cour pénale internationale, qui nous dit qu'il lance une procédure, mais qui en réalité se trouvera un peu ineffective. Parce que si on arrive, quand bien même on arriverait à prouver qu'il y a eu des crimes de guerre, et on a vu 2-3 informations, il y a une tour radio en Ukraine qui a été détruite, c'est un crime de guerre, on n'a pas le droit de s'attaquer aux moyens de télécommunication pendant la guerre. On a des civils qui ont été tués et c'est un crime de guerre de viser des zones dans lesquelles on sait qu'il y a des civils et qui ne sont pas des objectifs militaires. Aujourd'hui, on a eu des informations selon lesquelles il y aurait peut-être ce qu'on appelle des armes à sous-munitions qui ont été utilisées, c'est-à-dire des armes qui tuent, enfin qui bombardent sans faire de discernement et donc nécessairement qui tuent des civils. Et bien, quand bien même on arriverait à le prouver, bah, faudrait aller chercher Poutine. Faudrait aller chercher au Kremlin parce que la Russie ne l'extradera jamais jusqu'à la haie. Et donc le monde entier pourra dire, bah, on le veut, c'est un grand criminel de guerre, mais il ne sera jamais extradé. Alors peut-être là, bah, peut-être là, on ira chercher James Bond pour qu'il aille le chercher au Kremlin et qu'il nous amène à la haie pour finalement le juger. On n'a pas tellement d'autres solutions.
Eh bien, excellent. Merci pour ce billet d'humeur, Maître Philippe-Henri Anneger. Excellent, bravo. Hein. Bravo.
Merci à vous.
À lundi, sans faute.
Sans faute.
Lundi prochain, bien sûr. Maître Philippe-Henri Honegger, chez Ruben et Associés. Excellente analyse, hein, je dois le reconnaître. Toujours cet éclairage avec un volet juridique, comme chaque lundi d'ailleurs. Et vous êtes nombreux à réagir, comme toujours. Vous les auditeurs partout en France, on va marquer une courte pause pub et on se retrouve justement avec les différents sujets qui ont retenu notre attention et on écoutera cette fois-ci Philippe Nadjibouriaki.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h42 précisément avec Philippe Nadjibouriaki, avec Farid Tamsamani. Je ne vous ai pas entendu justement sur les candidats, les 12, et puis finalement, y a-t-il campagne? Est-ce qu'on peut parler d'une campagne en pleine guerre?
Non, il ne va pas y avoir campagne, et puis de toute façon, tu as bien vu les médias, hormis ici à Beurre FM et quelques médias qui tiennent la route, je ne dis pas qu'ils ne tiennent pas la route, mais ils sont uniquement sur la guerre, sur la guerre, sur la guerre, donc il n'y a pas de place dans la campagne. Et puis, il y a des familles politiques, je vois qu'à l'extrême gauche, tu as Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, il ne devrait y en avoir qu'un seul. Dans la gauche radicale, tu as Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Il ne devrait y en avoir qu'un. Dans la gauche modérée, ça c'est Le Monde. Hein. Il a mis Anne Hidalgo. Il aurait dû mettre Anne Hidalgo et Jadot. Et il n'y en a qu'un seul, normalement. Et dans la droite, alors ils ont mis dans le centre, comment il s'appelle, Emmanuel Macron, le président. Je pense que ça aurait pu le mettre dans la droite. Et Valérie Pécresse, malgré qu'elle elle bordonne un petit peu. Et dans l'extrême droite, ils ont mis Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il ne devrait y en avoir qu'un seul. Donc déjà, rien que ça, on devrait se retrouver avec 5 candidats. Enfin, 5 familles politiques, tu as 5 candidats. Et là, tu as quelque chose de qualité. Là, on va avoir des briefs par-ci, par-là. Il ne va pas y avoir campagne, on le sait bien. Et en temps de guerre, l'instinct de survie, tu te dis, faut pas changer de chef dans un temps de guerre. Enfin, c'est pas possible. Et puis, tu as entendu tout à l'heure l'auditeur. Il dit, moi, je suis en colère contre Emmanuel Macron, mais je vais pas voter. Eh ben, tu mets ça, plus ça, plus ça, plus les tracas au quotidien. On sort de 2 ans de pandémie. Les gens, ils ont le moral dans les chaussettes. On va avoir le 40% de gens, 50%, allez, au maximum, après l'élection présidentielle. C'est là où.
Vous pensez ça aussi, Farid Tamsamani? 40%, c'est beaucoup, 50%. Quand même. Hein. 50, c'est beaucoup. Hein.
Tu parles d'abstention, c'est ça? Hein.
D'abstention, oui. Ouais.
Bon, je vais pas m'avancer sur des chiffres. C'est sûr qu'il va y avoir une abstention plus importante que d'habitude. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un sortant. Qu'il n'y a pas un dégagisme comme on a pu le connaître par exemple sous Sarkozy. Voilà. Et du coup il y a la guerre aussi. Donc du coup les gens se disent de même, bah de toute façon c'est plié, c'est pour être plié.
Mais les vieux qui vont aller voter.
C'est toujours les mêmes effectivement qui vont aller voter, c'est-à-dire effectivement les plus âgés et puis les gens qui ont l'habitude du devoir civique. Mais moi une élection présidentielle n'est jamais jouée jusqu'à la fin. Et là cette crise ukrainienne et ses conséquences, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Maintenant, ce que disait notamment Philippe sur le fait qu'il y ait trop de candidats, bah, c'est la démocratie aussi qui parle. Plus il y a de candidats, plus moi je pense que la démocratie en fait est bonne. Après, effectivement, on le voit d'ailleurs notamment dans les élections locales, c'est qu'il y a certaines candidatures qui en réalité sont là pour diviser d'autres. On prend un seul exemple, la candidature d'Éric Zemmour, elle est là uniquement pour fracasser la candidature de Marine Le Pen. Et on peut dire la même chose, si je ne dis pas de bêtises, Roussel par rapport à Mélenchon, par exemple. Donc, après ça, c'est la politique politicienne. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un débat, je pense. Alors, malheureusement, la campagne va être tellement courte, et puis, si j'ai bien compris, c'est que le président de la République sortant ne va pas vouloir aller tant que ça au débat. Je trouve ça dommage, c'est malheureux, parce que moi, je pense que parce qu'il faut un débat. S'il n'y a pas de débat, ça veut dire que le débat va se faire post-présidentiel. Et là, c'est beaucoup plus dangereux parce que les échéances vont être très lointaines.
Autre sujet, justement, vous parliez de Marine Le Pen. Le ralliement de Marion Maréchal, justement, à Éric Zemmour. C'était ce week-end. Eh oui, messieurs, Marine Le Pen continue d'être affaiblie. C'est la question que je vous pose. Est-ce que cela affaiblit Marine Le Pen? Et est-ce qu'il y a un enjeu qui est en train de, évidemment, de se dessiner? Quant à ce ralliement, est-ce qu'il y a des accords, Farid Tamsamani? Que doit-on lire? Quelle grille de lecture doit-on avoir? Deux questions. Quelle grille de lecture? Ralliement à Éric Zemmour, de Marion Maréchal. Et puis surtout, est-ce que ça ne va pas affaiblir Marine Le Pen?
Alors, la grille de lecture sur cette partie de l'extrême droite, c'est très simple. C'est que Éric Zemmour a été propulsé par les amis ou en tout cas l'équipe de campagne de Marion Maréchal Le Pen. C'est un secret pour personne. Donc ce ralliement-là, en réalité, il est logique. Pourquoi? Parce que tous les deux fantasment sur l'union des droites, d'une certaine manière, d'une certaine extrême droite et d'une droite républicaine. Ce que je
crois difficilement en réalité. Ensuite, est-ce que ça va avoir un impact sur Marine Le Pen? J'ai pas l'impression que, en tout cas, lorsqu'on regarde les sondages depuis la campagne.
Quand j'écoute certains experts, ils disent que ça peut affaiblir Marine Le Pen.
Je ne crois pas parce que Marine Le Pen Marine Le Pen va se victimiser.
Ah oui.
Donc elle va dire voilà, regardez, ma propre nièce m'abandonne, etc., etc. Alors que je suis très proche de l'accession au pouvoir. Donc moi, j'y crois pas beaucoup. Maintenant, ce qui est certain, c'est que le timing du ralliement, notamment, il faut quand même le dire, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Éric Zemmour, c'est l'un, un peu comme Mélenchon à gauche, ils font campagne. Ils ont une dynamique de campagne avec eux.
Le ralliement, est-ce qu'il a du poids?
Moi, je ne crois pas. Je pense que Marion Maréchal Le Pen ne pèse pas grand-chose. Pas du tout. Cette extrême droite, on va dire, qui rassemble une partie des cathos de droite et une partie
de l'extrême droite. Peut-être qu'elle peut jouer sur les intentions de vote.
Moi, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen, la force de Marine Le Pen, c'est quoi? C'est qu'on la qualifie d'extrême droite, sauf que c'est un électorat populaire. Ce que n'est pas, ce qui n'est pas le cas pour Éric Zemmour. Et encore moins pour Marion Maréchal Le Pen. Parce que Marion Maréchal Le Pen, je peux vous dire, d'ailleurs, les scores d'Éric Zemmour seront essentiellement faits dans le sud-est de la France, alors que Marine Le Pen, elle engrosse quasiment partout en France. C'est pour ça. Et il faudra même s'interroger, à mon avis, c'est cette logique d'Éric Zemmour. Mais je ne crois pas que ça ait un impact véritablement. Je peux me tromper, hein, il y a encore quelques semaines devant nous. Mais je pense que Marine Le Pen sera quand même devant Éric Zemmour.
En tout cas, elle fait son retour sur la scène politique.
Par contre, ça c'est beaucoup plus dangereux, parce qu'elle a fait son retour. On sait très bien que Marion Maréchal
Le Pen et Éric Zemmour... Dans le jeu politique.
En fait, la logique, c'est pas 2022, mais c'est 2027, qui font un pari, notamment des législatives.
Souvenez-vous, elle avait pris du recul.
Exactement, ils font un pari du financement électoral, c'est-à-dire qu'ils vont engranger des députés. Ça va être très dangereux. Ils vont engranger du financement électoral pendant 5 ans
et c'est
pour
ça.
Mieux préparer effectivement 2027.
Parce que les législatives derrière, ils vont prendre
ils vont faire des scores. Ça c'est certain.
C'est certain. Philippe Nadjibouriakis, tiens, justement. Alors,
juste comprendre comment fonctionne le financement des partis politiques. Il faut que vous présentiez au minimum 50 candidats, donc 50 circonscriptions, et que vous fassiez une moyenne de 1%. À partir, si vous réunissez les deux conditions, c'est pour ça qu'il y a une embrouille entre ELV et Génération Écologie. Je vous en parlerai plus tard, j'attends les résultats du vote interne de Génération Écologie. Si vous réunissez que ces deux conditions, après vous pouvez présenter 200 candidats, hein, Adil, c'est pas un problème. Mais si vous présentez au minimum 50 et vous faites un point, ça vous déclenche 1,50€ par voix que vous faites. Si vous avez fait 200 000 voix sur la France, ça vous déclenche par an 300 000 €. Peu importe que vous ayez ou pas des députés. Et à chaque député que vous avez, vous touchez une prime de 40 000 €. Plus la cotisation des députés et des militants, etc. C'est comme ça que participe le financement des partis politiques. Et c'est pour ça que vous avez plein de listes législatives, parce que des types, ils se disent écoute, on va faire 200 000, 300 000 voix en France, 400 000, et ça va, c'est le jackpot. Hein,
sachant que Zemmour, c'est beaucoup plus de voix qu'il va faire.
Ouais, mais il n'aura peut-être pas de députés. Regardez, prendre un exemple.
Exactement.
Nous,
Europe Écologie. Je pense qu'il en aura.
Il en aura. Moi, je pense aussi.
On va voir. Mais imaginons qu'il n'en ait pas.
Non, mais parce qu'au deuxième tour, ça risque de bloquer. Mais regardez Marine Le Pen, le score qu'elle a fait en 2017, elle a à peine 8 ou 9 députés. Donc, je pense qu'il n'en aura pas, peut-être un ou deux, mais vraiment à la marge. Mais par contre.
Lui est maréchal.
Peut-être, ouais. Mais du coup, en plus, ils vont sûrement se mettre d'accord avec le FN entre les deux tours pour se dire bon, bah là, tu présentes personne contre moi, je présente personne contre toi, et oui. Donc notre électorat, c'est un petit peu les vases communicants. Mais effectivement, ça prépare 2027, ça relance, ça remet sur la scène.
Pour Marion.
Et en plus, d'une manière comme elle souhaite, cette fameuse réconciliation des deux droites. Alors moi, je pense qu'il y a une droite conservatrice, mais qui n'est pas prête à passer de l'autre côté. Donc, qui ira forcément, ça va éclater les LR en deux. Les Ciottistes qui vont se retrouver avec les Zemmouriens et Marine Le Pen, ça va finir par faire la même famille, tout ça. Je pense que c'est une jonction. Et les autres qui vont aller vers le centre droit de Macron. Et la vraie difficulté dans cette situation, comme tu l'as dit sur l'après, c'est quelle majorité qui va être dégagée pour les prochaines législatives. Et pour les législatives, il faut bien comprendre, il faut aussi deux conditions.
Messieurs,
la première pour être au deuxième tour.
Oui, alors je voudrais juste, dernier sujet, un tour de table avant de rendre l'antenne, messieurs, Farid Temsamani, Philippe Nadjibouriaki, cette guerre en Ukraine risque-t-elle de durer? Surtout, évidemment, on voit que la Russie aujourd'hui resserre son étau sur Kiev. Farid Temsamani.
Elle va durer parce que Vladimir Poutine, en fait, n'a pas actionné totalement ses troupes sur l'Ukraine. Clairement, il prend son temps. Il pilote ce qu'on appelle les endroits stratégiques, c'est-à-dire le corridor notamment autour de la mer Noire, autour de probablement de la Moldavie et au nord probablement également. Et ensuite, il va avancer petit à petit. Si vraiment il voulait, il aurait voulu, contrairement à ce que certains analystes disent, s'il avait vraiment voulu prendre Kiev ou même l'Ukraine en quelques jours, il l'aurait fait. Objectivement, la comparaison des deux armées, elle est sans équivoque. Maintenant, il va faire durer. Ça, c'est une évidence. Mais, à côté de ça, je pense qu'il ne s'attendait pas, à ce que les sanctions occidentales, ou en tout cas internationales, soient aussi fortes. Et donc, du coup, ça a un impact à l'intérieur, qui fait qu'il y a des négociations. En fait, les gens ne le savent pas, mais les Russes négocient à Washington et ça négocie aussi à Moscou. Donc, lui, il veut quand même sortir. Donc, il veut sortir par la tête haute.
La tête haute, surtout.
Ce qui est logique.
Et puis, il veut sortir en se disant, c'est lui qui a gagné, finalement, non, cette guerre.
Non, in fine, il gagnera pas. Ouais. Il va l'habiller de telle manière. Mais la réalité, c'est que son propre peuple, en fait, va, à un moment donné ou à un autre, se retourner contre lui. Alors, ça sera pas forcément tout de suite, mais il va se retourner. Pourquoi? Parce que les sanctions qui sont en train d'être opérées, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire.
Ouais, c'est une première.
Et lui-même est très surpris. Même les Américains sont extrêmement surpris de la réponse des Européens. Et ça, il faut quand même le signaler.
Philippe Ndjibouyaki.
Moi, je suis pas aussi
catégorique. Parce que
là, en ce moment, ils sont en train de faire des accords avec la Chine, la Corée, l'Iran.
C'est ce que je m'apprêtais à dire. Eh oui, les Chinois ont parlé, les Chinois.
50% de la population, ils sont en train de développer un nouveau marché monétaire pour passer du dollar. Attends, j'ai pas dit que c'était aussi facile que ça. Je dis, c'est des probabilités qui sont en train d'arriver de plus en plus. Mais surtout, effectivement, je suis d'accord. Si vous voulez raser l'Ukraine, ça sera déjà fait. Ça, c'est clair. Et ce qu'il veut, c'est que ne pas avoir toute la planète contre lui, parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de civils qui passent là-dedans. Et c'est pour ça qu'il fait des couloirs humanitaires. Et ceux-là, ils sont pas acceptables, parce qu'il leur dit soit vous passez réfugiés en Biélorussie, ou soit en Russie, c'est-à-dire que ça devient quasiment des prisonniers, donc c'est pas possible.
Merci messieurs pour cette analyse précieuse. Farid, vous reviendrez très vite, j'espère.
Avec grand plaisir.
Pour pas disparaître. Hein.
Toujours.
Farid Tamsameni, consultant. Philippe Ndjibouyaki, qui est un élu du conseil régional Les Verts. Voilà.
Je suis écologie.
Écologie, absolument.
Ah, pour l'instant, je suis plus chez Les Verts.
Bilal Ledman, dans une poignée de minutes, dans Time Sport. Bonsoir, Bilal.
Bonsoir à tous.
Quel est le sommaire qui nous attend tous?
Là, on va parler de MMA avec notre invité ce soir, Damien Dubien. Et sans oublier aussi Kylian Mbappé. Ça va pas très très bien là pour le Paris Saint-Germain, on le rappelle. Pour les auditeurs, on dit que le Real Madrid rencontrera le Paris Saint-Germain, 8e de finale retour, ce mercredi. Et l'homme fort, c'est le gamin de Bondy, Kylian Mbappé, l'international français, s'est blessé. Et là, on appréhende la rencontre de ce mercredi.
On va parler de cela,
et sans oublier aussi Sampaoli avec Marseille. Ira-t-il jusqu'à la fin de saison? On verra tout ça.
Quel riche programme! Riche programme nous attend! 20h, 21h à ne pas manquer, c'était avec Bilal Edman. Quant à moi, je vous dis à demain. Merci à la réalisation, à Yanis. À demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien. Ciao!
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.